avec Fred Facio en régie. Bonjour à vous.
Il y a des esprits chagrins
et des vieilles piornes qui voient le mal partout et qui prétendent que le théâtre corrompt la jeunesse et pervertit les mœurs.
Ah, loin de pervertir les mœurs, son théâtre veut divertir, émouvoir, transmettre aussi la culture de son pays à tout le monde sans exception. Le théâtre inclusif, comme on dirait aujourd'hui, populaire, comme on l'appelle plutôt, c'est lui qui l'a initié ici, en Suisse romande. Le Morgien René Morax aurait eu 150 ans cette année, fondateur du théâtre du Jora, créateur de pièces comme Tell, d'Avel, Le Roi David ou encore du livret de la fête des vignerons 1905. Il a aussi signé une petite comédie qui en dit long sur son art. Elle est remise sur le devant de la scène grâce à nos invités Jean Cholet et Fabian Ferrari. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio la veille de la première des Quatre doigts et le pouce, pièce de Morax donc que vous mettez en scène Jean Cholet et dont vous portez l'un des rôles, Fabian Ferrari. On se réjouit d'en parler avec vous ainsi que de son auteur d'ailleurs dans quelques secondes. Si le théâtre pervertit les mœurs, alors nous comptons dans nos rangs un des plus grands tordus de la RTS, probablement. Vous avez rencontré une autre fameuse figure du théâtre roman, Anne Bizon, qui s'intéresse à deux destins brisés par le cinéma. Cela.
Oui, et du coup, je serai beaucoup plus féminin que dans Les Quatre doigts et le pouce, puisqu'il s'agira en l'occurrence de Edith Lamarr et de Marilyn Monroe, donc une pièce éminemment féminine.
Quand elle a surgi il y a une soixantaine d'années, il y avait du monde pour l'accuser de pervertir les mœurs. La pop culture britannique a depuis fait du chemin et s'aimer dans tous les champs culturels, en témoigne le passionnant Brit Book de l'auteur Hervé Brouis, qu'on entendra juste après le journal d'actualité culturelle. Anglais, il l'est, tourmenté, il l'était aussi, mais avant tout par le ciel, la mer, la lumière du soleil. Le génial Turner est à l'honneur à la Fondation Pierre Janada, Florence Grivel.
J'y suis allée ce matin, j'ai fait vraiment une plongée dans ces vapeurs, ces nuées qui sont traversées par la lumière, par le soleil qui était pour Turner Dieu. Et c'est comme ça que cette exposition s'appelle The Sun is God. Et il semblerait que c'est à peu près les dernières paroles avant de s'éteindre qu'il aurait dites. Magnifique
sublime.
Expo
oui,
j'en ai des frissons.
Magnifique. Sarah Clément, vous nous parlerez d'une série consacrée au rap qui, loin de pervertir son héros, pourrait le sauver. Il s'agit d'une série de production lausannoise.
Et qui s'appelle New Wave, qui a présenté son premier épisode pilote, donc une série 100% lausannoise, faite par des jeunes et pour des jeunes.
Des arts qui font du bien aux mœurs et au cœur sont au programme de Vertigo aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Et tout de suite, on a un avant-goût, tenez, de ce qui vous attend dès demain au théâtre.
Ça fait bientôt une heure que tu regardes.
Une heure que je regarde?
Parfaitement.
Mais tu danses pas parce que t'es loche à toi.
Non mais tu veux me laisser regarder?
Non, ça suffit.
Dis donc Gustave, veux-tu me cacher ce bouffard? Tu veux nous incendier ou bien?
Mais non.
Mais vous inquiétez pas monsieur le régent, ça risque rien. J'ai un arrosoir.
Tu prends des airs sinistres. Faut que les femmes pâlissent rien qu'à te voir entrer.
Mais je ne trouve pas ma perruque!
Mais ça fait rien! C'est Lisette qui commence! On a tout le temps!
Les quatre doigts et le pouce. Voilà quelques extraits de cette mise en scène que vous signez, donc Jean Cholet, et dans laquelle vous jouez Fabian Ferrari. Vous êtes l'un des six protagonistes strictement masculins dans cette pièce-là. On comprendra plus tard pourquoi. René Morax, l'auteur, donc, on célèbre les 150 ans de sa naissance. Ce sera en mai, le 11, très exactement. Et cette mise en scène, eh bien, on pourra la voir dès ce week-end à Carouge, à la Grande Salle, puis au Bateau-Lune à Chezeau, théâtre dont vous êtes d'ailleurs le fondateur, Jean Cholet. Alors l'histoire des quatre doigts et le pouce, moi je vous laisse nous la raconter, tenez Jean Cholet, j'ai trop parlé déjà.
C'est difficile de raconter l'histoire sans tout divulgâcher, mais en gros, c'est peut-être le contexte qui est intéressant, parce qu'au fond, Morax commence sa carrière à Morges, dans la ville où il est né, au théâtre du Casino, et puis il a des machinistes, comme toutes les troupes amateurs de ce canton, et ces machinistes, un jour, lui disent qu'ils sont bien d'accord de continuer à travailler comme machinistes, ils aiment leur travail, mais au fond, si une fois... exceptionnellement, il pouvait passer de l'ombre à la lumière et avoir un rôle à jouer, ce serait peut-être pas mal. Alors, Morax est très surpris en disant « Attends, il faut quand même deux, trois compétences pour jouer, il ne peut pas jouer qui veut. » Mais finalement, il se laisse convaincre et il va leur écrire une histoire d'amour qui est une tragédie absolue. Mais comme rien ne va comme prévu dans cette pièce, ça devient une comédie formidable. Mmh. Et ça a été ça a été un succès énorme, ces quatre doigts et le pouce de Morax. À chaque reprise, c'est un tabac. Et ce qui est très étonnant, c'est que, à côté de ça, comme vous le disiez tout à l'heure, au fond, Morax, il a écrit Tell, Davel, etc. Des choses sérieuses. Mm-hmm. Il n'a jamais imaginé. Absolument, mm-hmm. Une tragédie. Parce qu'au fond, le théâtre du Jorat qu'il a conçu, c'est un lieu où on réfléchit, où on pleure peut-être, mais on ne rit pas. On ne rit jamais. Il n'y a aucune comédie pour le théâtre du Jorat. Il n'a jamais produit de comédie. Alors que c'est peut-être le texte de Morax qui a le moins vieilli. Mm-hmm. C'est impressionnant. On se dit, ce texte a 100 ans maintenant, on retouche pas le texte. Je veux dire, c'est d'une efficacité, les répliques les unes derrière les autres sont d'une efficacité extraordinaire. Et à la première lecture, je me rappelle la première lecture, notamment avec Fabian, parce que il y a beaucoup de comédiens romans qui connaissent cette pièce à l'envers, à l'endroit. Fabian la connaissait pas. Et je me suis dit, on va jamais arriver au bout de la lecture. Il était mort de rire sur la table. Et c'était une première lecture fantastique. Mm-hmm. Et je crois que, moi, il y a 40 ans que je fais de la mise en scène, je n'ai jamais autant ri que dans cette réalisation-là.
Donc, Jean Cholet, vous nous avez raconté le contexte, mais on n'a toujours pas l'histoire. Alors, moi, j'aimerais bien que Fabian Ferrari nous raconte l'histoire. Vous jouez le régent.
Moi, je suis le régent. C'est qui le régent va diriger ses machinistes, leur donner un rôle, leur écrire une histoire. Il y a des contre-sexes, il y en a deux. Et tout
donc
ça se met...
des hommes qui jouent des femmes.
Exactement, là, des hommes qui jouent des femmes. Et c'est vrai que c'est difficile de raconter sans tout divulgacher, comme dit Jean.
Ils essayent de mettre en scène une pièce, mais ils n'y arrivent pas. Il y a toujours plein de pièges, plein de choses qui se passent. Plein on oublie ceci.
On oublie ci, on oublie ça. Mm-hmm. On est dans de la grosse farce en permanence, mais il y a beaucoup de sincérité, beaucoup de bonne volonté. Ils veulent y arriver. Ils jouent comme des pieds.
Mais est-ce que c'est facile de jouer quelqu'un qui joue comme un pied? Tenez, Fabien Ferrari.
J'étais sûr que vous allez nous poser la question. un peu de modestie. Oui, c'est très dur de jouer comme un pied.
Ce qui reste à travers les siècles, en tout cas, enfin, disons les décennies de cette pièce, c'est l'accent. Là, vous vous amusez bien sur l'accent. Hein.
Non, on s'est beaucoup amusé parce que, d'abord, j'ai quand même proposé des rôles à des comédiens qui avaient un accent possible, hein, parce que c'est un accent qui se perd tout de même. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est de voir comme un Edmond Vuillou, qui a beaucoup joué partout, beaucoup joué en France, etc. Mais tout à coup, quand on lui propose de retrouver son accent de la vallée de Joux, ça revient avec une splendeur absolument inouïe. Et là, en l'occurrence, une des difficultés, par exemple, de cette pièce, c'est que quand vous avez six accents, ou bien c'est six vaudois qui sont parfaitement vaudois, ils ont un accent à couper au couteau, c'est formidable, ou bien c'est pas tout à fait le cas. Et alors, il faut trouver des finesses parce qu'il y a rien de pire que des accents d'opérette qui ne se ressemblent pas. Et là, en l'occurrence, dans la pièce, il y a un comédien qui avait un accent, ça faisait pas tout à fait l'affaire pour de l'accent vaudois. En revanche, c'est celui qui doit jouer un chevalier espagnol dans la deuxième partie avec une espèce d'accent espagnol. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'accent espagnol, il le prend très très bien. Donc, on s'est dit, on va faire une petite entorse à Monsieur Morax. On va imaginer dès l'abord que ce monsieur s'appelle Miguel, qu'il est le commis de Gustave, et donc il vient avec son accent espagnol dès le début. Et c'est parfaitement juste et c'est parfaitement crédible.
Mmh. Thierry Sartoretti.
Et est-ce que cette pièce doit se jouer avec cet accent-ci précisément, ou on peut le transposer en Valais, Cantonvaux, à Genève, voire en France, où il faut dire incendier, comme on vient de l'entendre à l'antenne?
C'était ici où transposer ça au Canada, par exemple. Je pense que ça pourrait marcher.
Et pionnier n'est pas un mot québécois.
Pionnier, pas de femme en canadien, mais on comprendrait quand même. Je veux dire, voilà, moi j'ai l'impression que ça fonctionne avec des accents qui chantent. Et vous parliez du Valais, c'est formidable, ou l'accent du Midi, ou l'accent canadien. Mais un accent qui chante un peu. Et au fond, une langue toute plate, c'est pas impossible, mais c'est quand même c'est plus triste.
Mmh. On a des belles expressions vaudoises aussi. Hein.
Oui,
c'est meilleur
ça,
pour
c'est
faire la chenille.
C'est ça.
Pas tous les jours qu'on entend ça.
Vous avez pris des libertés, hein, vous l'avez déjà fait entendre avec ce texte-là, tout de même, pour le moderniser peut-être?
Non, pas pour le moderniser, mais au fond, moi j'ai envie de dire pour rebondir sur toutes les suggestions des comédiens qui, pendant les répétitions, ont tout à coup une panne, un couac, un oubli ou quelque chose qui n'allait pas comme prévu. Et on s'est dit, non, mais ça c'est 100 fois mieux. On va garder ça. Ce qui est très particulier dans cette pièce, c'est qu'au fond, il n'y a jamais de too much. Quand c'est trop, c'est trop invraisemblable, c'est encore plus formidable. Et au fond, c'est là qu'on s'est donné quelques petites libertés d'improvisation et de trouver des choses, mais pas de retoucher le texte et de lui donner une contemporanéité.
Mmh. Les Quatre Doigts et le Pouce, c'est une pièce qui a été, vous l'avez dit, souvent jouée, très souvent et à chaque fois un grand succès. Bah, je vous propose justement qu'on écoute un de vos confrères qui a joué le régent et comme vous, donc Fabien Ferrari, et qui a mis en scène cette pièce, comme vous, Jean Cholet. On l'écoute.
Braque, je m'avais dit lui-même, il avait écrit sa première œuvre, La Nuit des Quatre Temps, qui fut jouée à Morges. Et les machinistes de Morges, qui étaient eux-mêmes comédiens amateurs, avaient mis tant d'ardeur et de plaisir à monter La Nuit des Quatre Temps, à la préparer techniquement, que Morax, pour leur faire plaisir, a écrit Les Quatre Doigts et le Pouce, une pièce, comme vous savez, pour rôle masculin exclusivement. Et depuis, la pièce s'est jouée partout, dans toute la Suisse romande, et particulièrement pendant la guerre, pendant la mob de 14 et pendant la mob de 39. Je crois que toutes les compagnies vaudoises ont joué les Quatre Doigts et le Pouce.
Pour leur soirée de compagnie.
Pour soirée de compagnie et pour la population des villages auxquels ils étaient cantonnés.
Bon, et les faunés ont monté les Quatre Doigts et le Pouce en quelle année?
Ils l'ont monté dans l'hiver 55-56, dans le cadre du spectacle qui fut consacré à la fête des vignerons de la Côte, cette parodie de la fête des vignerons de Vevey. Et alors nous avions présenté le spectacle dans le cadre d'une soirée villageoise à laquelle assistait le public, avec tombola et tout ce qui s'ensuit. Et la première partie du programme était Les Quatre Doigts et le Pouce.
Et si je ne me trompe, René Morax lui-même a vu cette mise en scène, a vu la pièce montée par les faunés, et il est venu même assister à des répétitions.
Oui, il assistait en tout cas à la dernière répétition, la veille de la générale. C'est une soirée exténuante pour les comédiens. En effet, Morax, qui avait plus de 80 ans, était plus frais que nous. Il nous a fait jouer la pièce trois fois d'affilée, montant sur la scène, descendant, mimant tous les rôles, indiquant des jeux de scène. Il trouvait que nous étions trop mous. Hein? Nous qui avions à l'époque 25 ans, qui nous croyions des athlètes, eh bien, Morax en a remontré. Il a complètement crevé, mais le résultat fut que le spectacle fut fortement amélioré grâce à lui.
Voilà, toute l'énergie de René Morax, c'était... ici, on entendait Charles Apothélose, donc avec fondateur de la compagnie des Faunés, dont il parlait, qui avait mis en scène cette pièce, Les Quatre Doigts et le Pouce. Et là, c'était une interview quelques mois après la mort de René Morax, en 1964. Vous auriez aimé, j'imagine, que René Morax assiste Jean Cholet à la mise en scène. Et...
Oui, mais bien sûr, on rêve toujours qu'un auteur soit là pour dire ce qu'il a pensé d'une œuvre qu'on est en train de respecter à la fois et de violer en même temps. Enfin, c'est toujours un petit peu ça, une mise en scène.
René Morax, il est tout de même à travers ce personnage du régent Fabien Ferrari, non? C'est un peu lui que vous portez.
Oui, c'est ce qui se dit, en tout cas, quand on lit l'historique, la presse de l'époque. Il s'est identifié à ce personnage. Mm-hmm. Oui. D'ailleurs, le régent joue un rôle de metteur en scène au sein de la pièce, complètement.
Au-delà même de son histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette petite comédie, l'air de rien, sur le monde du théâtre, selon vous, Fabien Ferrari?
Moi, j'ai l'impression qu'elle raconte aussi pas mal de choses de Morax lui-même dans son rapport au théâtre et à Mézières, par exemple. Le petit extrait que vous avez cité, fait passer au tout début de l'émission, où le régent dit, enfin, c'est incroyable, il y a des vieilles piornes qui pensent que le théâtre pervertit la jeunesse et corrompt les mœurs. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça, c'est un texte qui a paru sous la plume d'un certain nombre de pasteurs de la région de Mézières qui s'opposaient très fermement à la création d'un théâtre à Mézières. Considérait qu'il y avait certes des occasions de pervertir son âme en ville, il fallait que ces occasions restent en ville, et que la campagne qui était un peu privilégiée, un peu protégée, eh ben, il fallait pas en plus amener un théâtre à la campagne. Donc au fond, très habilement...
Les choses ont changé, puisque vous êtes vous-même pasteur, il faut bien le préciser, Jean Cholet.
J'ai essayé de faire des ponts là où on mettait des murailles peut-être. Oui, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a au fond recyclé les critiques qu'on avait à l'encontre de son théâtre pour les mettre dans sa pièce. Ça, je trouve ça extrêmement amusant. Et au fond, c'est un des combats douloureux de Morax pendant toute sa vie, ça a été de d'avoir le droit d'employer des comédiens professionnels. Mmh. Au fond, il était en face d'un comité qui, à longueur d'année, lui a dit pendant des dizaines d'années, mais qu'est-ce que vous voulez des comédiens professionnels? Ça coûte très cher, c'est difficile à gérer. On a assez d'instituteurs et d'institutrices qui ont beaucoup de vacances, ça fera très bien l'affaire. Ça a toujours marché comme ça chez nous. Qu'est-ce que vous voulez changer? Et ça a marché comme ça à Mézières jusque dans les années 80. Et quand j'y suis arrivé avec Aliénor, puis comme directeur, c'est une des premières choses que j'ai faites, c'est d'essayer d'avoir plus de comédiens professionnels, et c'était très compliqué. Mm-hmm. Parce que la recette de Mézières, c'était 3-4 professionnels et 25 amateurs, et c'est comme ça qu'on faisait un peu d'argent.
Comment présenter René Morax? Je vous propose que déjà, on entende sa voix, son humour, son rire. Dans une archive de 1958, il avait 80 et des poussières, et une gaieté qui fait fondre le jeune Émile Garda, qui l'interroge alors pour la RSR.
Au fond, à l'époque, cette expérience du théâtre du Jura était absolument nouvelle aujourd'hui.
Oui, évidemment, c'était une protestation à paix, vous savez, contre ces sacrés... Je dis sacré, solennel, si vous voulez. C'est solennel festival, n'est-ce pas? N'est-ce pas, vous, on allait... On mettait des sommes folles, n'est-ce pas, pour dans un texte qu'on ne comprenait pas, des ménorcores, des danses. Je disais, c'était un peu comme des revues de fin d'année où les femmes à poil étaient remplacées par des militaires. C'est vrai. C'était ma définition du festival, n'est-ce pas?
Ben, vous avez contribué à changer tout ça, vous voyez.
Non, mais je me souviens d'avoir été en tant que jeune, enfin collégien, d'avoir été voir le festival de Berne, n'est-ce pas, et d'entendre les gens gueuler, n'est-ce pas, avec des choses, n'est-ce pas, horribles, n'est-ce pas, on n'entendait rien, n'est-ce pas, il y avait des cœurs, alors il y avait du déploiement d'armes, des militaires magnifiques, n'est-ce pas.
Voilà, René Morax interrogé par Émile Garda en 1958. C'est une archive d'ailleurs qu'on peut écouter en intégralité. C'est environ 30 minutes de pur plaisir sur le site de la RTS, je vous conseille. René Morax, donc fondateur du théâtre du Jura, que vous avez dirigé, Jean Cholet. Ces quelques mots suffisent hein, pour dire l'essentiel de cet homme de théâtre et de ses motivations.
Oui, je crois qu'il a fait un voyage en Grèce au début du siècle qu'il a beaucoup marqué, et au fond il est revenu avec cette envie de créer un théâtre de texte. Et cette envie aussi de créer un théâtre non mondain, c'est-à-dire où les entractes sont des moments où on vient pas bien habillé, on ne boit pas du champagne, on ne fait pas des relations publiques, on vient là parce qu'on veut voir des comédiens et des chanteurs. Il y a toujours de la musique, hein, dans toutes les œuvres de Morax, il y a de la musique. Et des chanteurs qui défendent un projet artistique. Je crois que c'était très important pour lui. Il a aussi été pas mal impressionné par le théâtre du peuple de Bussan,
oui.
Est né d'une quinzaine d'années dans les Vosges, où c'est exactement le même principe, mm-hmm. c'est-à-dire une création d'un théâtre, 1000 places, à la campagne, tout
ouvert
en bois.
Ouvert sur la campagne.
Et ouvert sur la forêt vosgienne, mm-hmm. c'est ça qui est extraordinaire, effectivement, à Bussan, c'est très très beau. Ouais.
Mm-hmm. Quelle influence est-ce qu'il a pu avoir sur vous, Fabien Ferrari, René Morax, avec son théâtre populaire?
Moi, j'aime ça. J'aime le fait de pouvoir s'offrir entièrement à un public populaire. Mmh. Vraiment, il y en a pour Touxte. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment important. Je trouve que c'est l'essence même du théâtre, que ce soit une comédie ou que ce soit un texte plus sérieux.
Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, théâtre populaire, par rapport à quoi ça le serait aujourd'hui, en 2023? Est-ce qu'il y a une telle différence entre un théâtre populaire et un théâtre quoi? Alors, élitiste
C'est peut-être une connotation négative. Il y a un côté dans le théâtre qui peut paraître élitiste encore et toujours. Pour certaines personnes. Ne pas oser pousser la porte d'un théâtre, ça existe encore, toujours, malgré tout. Mm-hmm. Oui. Et on la pousse peut-être plus facilement pour une comédie que pour un autre type de texte. Mm-hmm.
Oui. Vous, Fabien Ferrari, vous êtes comédien, vous êtes aussi enseignant de théâtre. Vous avez fondé votre école, les ateliers Fabien Ferrari, qui se trouve d'ailleurs à Lausanne. Travailler avec des comédiens amateurs comme ce régent que vous incarnez ici dans Les Quatre Doigts et le Pouce, quelle force ça donne? Quel défi, quel plaisir particulier ça représente?
Bon, depuis que j'enseigne, j'ai commencé en 2015. Mm-hmm. Ma vision du théâtre a aussi beaucoup évolué. J'apprends beaucoup de mes élèves qui, eux, elles, se donnent vraiment à fond. Parfois, dans le milieu professionnel,
On tire au flanc.
On ne dirait pas qu'on tire au flanc, mais enfin, voilà, d'autres exigences, d'autres particularités. Et puis, donc, je prends énormément de plaisir à enseigner. Je trouve que c'est un partage magnifique. Oui, j'ai ouvert ces ateliers maintenant qui se trouvent au flanc, à Lausanne. Un plus jeune élève à 5 ans. La doyenne est notre doyenne. Voilà, on appelle ça comme ça. Plus de,
elle a
plus
8
de 80
ans.
Ans. Elle a 8 ans, voilà.
Voilà.
Plus de 80 ans. Et je poursuis ce chemin vraiment parce que je pars du principe qu'on passe beaucoup de temps à apprendre à écrire, à apprendre à compter et très peu à nous exprimer. Et on passe une grande majeure partie de notre éducation en famille, des fois aussi malheureusement, devant des personnes qui nous demandent plus de nous taire que de nous exprimer. Mmh. Et le théâtre, c'est un outil magnifique pour ça parce que on est dans la plus pure expression de nous-mêmes, s'exprimer, c'est-à-dire exprimer soi-même.
Mmh. Thierry Sartoretti.
Je me demandais ce qui aujourd'hui fait le théâtre populaire, si plus qu'un type de répertoire ou de langue, c'est pas simplement la proximité. Aller dans les quartiers, aller dans les villages, aller là où les théâtres ne sont pas. Qui sont plutôt dans les centres-villes.
Jean Chollet.
Écoutez, moi je viens d'ouvrir un petit théâtre de poche dans une région où il n'y en avait pas. Donc j'irai volontiers dans votre sens. Au-delà de ça, on peut poser en pleine campagne un théâtre parfaitement élitaire. Dans lequel on va faire un choix esthétique, un choix de répertoire, un choix de metteur en scène, de comédien. Voilà. Ça va pas plaire à tout le monde. Faut déjà avoir, si on n'a pas un certain nombre de clés pour entrer dans ce type de spectacle, on est un peu largué. Moi, j'ai fait le choix inverse, mais moi, fondamentalement, je suis attaché au théâtre grand public ou populaire depuis le départ. J'ai dirigé le théâtre du Jura trop longtemps, ça m'a définitivement marqué.
Et maintenant, le Bateau Lune.
Le Bateau Lune, c'est la même chose. Au fond, le Bateau Lune, il se pose dans une région où il n'y a pas de théâtre et il veut, au fond, ouvrir ses portes au public le plus large possible. Donc, ça a une incidence sur les choix programmatiques qui sont faits et sur la manière dont on aborde le théâtre.
Mm-hmm. Comment on fait rentrer les gens de la région au Bateau Lune, parce qu'il faut le trouver, le bâtiment, il est pas, on passe pas devant par hasard, hein. C'est au fond d'un parking, dans une zone industrielle, quelque part à la campagne, il faut vraiment vouloir y aller pour aller chez vous.
Alors, il faut un tout petit peu vouloir y aller. Ça s'améliore d'année en année. Maintenant, les amis du Bateau Lune ont mis des beaux panneaux où on découvre où sont les parkings, par exemple. Ça, c'est très précieux. Non, mais c'est sûr que ça prend un tout petit temps pour que les gens reconnaissent le lieu. Mais quand on a créé Kléber Mello, tout le monde dit, mais qu'est-ce que vous allez faire un théâtre là-bas en bas? Bon, c'est introuvable. On sait pas où c'est dans une zone où il y a personne. Bon. Et puis maintenant, Kléber Mello, ben, tout le monde sait où c'est. Et voilà, c'est parfait. Le Bateau Lune, c'est un peu la même chose. Et puis après, pour répondre à votre question, parce que de temps en temps, il faut que je réponde aux questions. Comment on fait pour faire venir du public? Moi, je crois que on communique beaucoup, c'est la première chose. Puis je vais dans pas mal de réunions de gens, je sais pas, la dernière que j'ai faite et qui était importante, c'est la réunion des syndics de tout le Gros de Vaud. Et ça, c'est des lieux où quand on peut enthousiasmer un public avec des élus comme ça, c'est pas mal, parce que ça a des retombées assez rapides sur la suite.
Mmh. Est-ce qu'il y aurait une de vos répliques préférées de cette comédie, Les Quatre Doigts et le Pouce, comme ça, qui vous viendrait, qui serait particulièrement forte pour vous?
Oui.
Fabien Ferrari.
Bien sûr. Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est... Oui, mais t'avais pas une mémoire exceptionnelle, je suis pas de vexer, toi, à l'école. T'étais meilleur pour faire la chenouille que pour réciter par cœur.
Et vous, Jean Chollet?
Il faut d'abord dire que ça, c'est pas de Morax.
Ah, c'est de vous?
Ce que vient de citer.
Mais non, dites-nous, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas le texte sous les yeux, je vous avoue, donc j'ai pas pu vérifier.
C'est dans le prologue.
Alors, il y a un petit prologue. Vous disiez, est-ce que vous avez relu l'œuvre? On n'a pas retravaillé le texte de Morax. En revanche, on a créé un petit prologue additionnel qui dure une vingtaine de minutes et qui donne justement le contexte dans lequel est née l'œuvre. Alors moi je vais en parler très peu, il faut que Fabien en parle parce que c'est plus simple de parler du texte de quelqu'un d'autre. Et puis ensuite il y a la pièce.
Le prologue il met en avant la situation de base avec laquelle René Morax a décidé de créer la pièce. Mmh. Donc c'est une réunion avec les 5 machinistes, les 5 techniciens du théâtre du Casino de Morges et tout d'un coup le régent qui arrive et là ils avouent, ils confessent au régent qu'ils ont très envie de faire du théâtre, et qu'ils ont très envie que le régent leur écrive quelque chose. Mmh. Puis le régent, au départ, il leur dit, mais c'est pas possible, vous êtes des techniciens, c'est un métier. Et puis vous êtes pas bon. Donc, ça va être compliqué de faire quelque chose. Mais je suis d'accord, à condition qu'un ou deux d'entre vous accepte de jouer un rôle de dame.
Et donc, ce sera Philippe Tonnet, notamment.
Philippe Tonnet, dans le rôle de Lisette. Et Edmond Vuillot, dans la baronne de Sainte-Luce, née de Froideville.
Qui s'amuse beaucoup. Il y a également à vos côtés, dans cette mise en scène que vous signez, Jean Chollet, à vos côtés, Fabian, il y a Jean-Christophe Guédon, Louis Alliman et Charles Sédoux. Casino de mort, j'ai bien la pièce, il sera dans quelques temps, mais d'ici là, elle sera donc à Carouge, à la Grande Salle, les 4 et 5 mars.
Non, les 3 et 5.
3 et 5 même. Donc dès demain, à Chez Eau, au Bateau Lune, du 8 au 19, c'est ça?
Du 8 au 20, maintenant on a fait des supplémentaires parce que tout était vendu du 8 au 26.
Parfait. Et ensuite, ce sera Vevey.
Vevey du 28 mars au 9 avril.
Et une tournée mondiale, je pense, s'annonce, puisqu'on a parlé du Canada. À suivre, donc, 4 doigts et 1 pouce de René Morax, dont on célèbre effectivement les 150 ans cette année. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Vous restez avec nous?
Volontiers.
Bonheur.
Formidable. Journal d'actualité culturelle qui suit. Après, on va parler d'une expo immanquable, d'une autre pièce et d'une série à découvrir. Bref, mais d'abord une nouveauté musicale signée des Genevois Stevens. Évidemment, c'est le titre de cette chanson signée des Genevois Stevens qui seront en concert demain, le 3 mars, au Groove, à Genève. Quoi d'autre du côté des actualités culturelles du jour? On y va tout de suite.
L'actu culturelle dans Vertigo.
C'est une victoire pour la mezzo-soprano franco-suisse Marina Viotti, une victoire de l'artiste lyrique qu'elle a reçue hier soir lors de la cérémonie des victoires de la musique classique française, en ajoutant, émue, que la musique n'a pas de frontières. Un prix qui vient s'ajouter à une longue liste de récompenses reçues par la lausannoise de naissance, formée entre autres à Vienne et à l'EMU. Elle avait notamment été sacrée meilleure chanteuse de l'année 2019 par l'International Opera Awards de Londres, avant de recevoir le prix suisse de musique l'an dernier. Actuellement en tournée, elle sera le 6 mai à Puy. Toutes les infos sur son site marinaviotti.com.
Kandinsky, a Russian, an artist, a genius.
C'est un record pour une œuvre de Vassili Kandinsky. Murna umid kirche zwei a été adjugée hier à Londres à 37,2 millions de livres sterling, presque 42 millions de francs. Il s'agit d'une huile sur toile d'environ 1 mètre sur 1 mètre qui montre des toits et l'église du village allemand de Murnau se confondant avec le paysage vallonné haut en couleur. Cette œuvre a longtemps décoré l'intérieur de la famille Stern, fondateur d'une entreprise de textile dont le mari, mort avant la guerre, a échappé au nazi, contrairement à sa femme, exterminée à Auschwitz en 44. Après quelques années passées dans un musée d'Eindhoven, aux Pays-Bas, le tableau a été restitué aux 13 survivants Stern, qui se partageront donc le fruit de la vente, mais pour lesquels cette vente représente avant tout, je les cite, une reconnaissance qui referme partiellement une blessure qui était restée ouverte à travers les générations.
Bizarre, bizarre, comme c'est étrange.
C'est une série phénomène qui s'apprête à devenir une pièce de théâtre. Stranger Things, la série Netflix aux 4 saisons et 12 Emmy Awards, est attendue sur la scène du Phoenix Theatre à Londres d'ici la fin de l'année. Adaptée par Kate Treffry, l'une des scénaristes de la série qui signera l'histoire aux côtés des créateurs de la série, les frères Duffer, et le dramaturge Jake Thorne qui avait signé la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Donc voilà, il s'y connaît en best-seller. Netflix reste évidemment à la production de cette adaptation qui compte bien réunir les fans qui trépignent dans l'attente de la 5e saison prévue, elle, pour l'été 2024.
C'était l'actu culturel de Vertigo à retrouver sur Play RTS.
Et puis il y a le FIF, le Festival International du Film de Fribourg, qui se tiendra du 17 au 26 mars. La programmation détaillée est en ligne depuis hier. Vertigo fera d'ailleurs une émission en direct sur place, ce sera jeudi 23 mars. Mais on vous fait d'ores et déjà gagner des places pour assister à une projection de film. Il vous suffit de nous envoyer vos coordonnées par mail à vertigo@rts.ch. Et tout de suite, un peu de lecture.
Vertigo.
Hervé Bourris est scénariste, dessinateur de bande dessinée, graphiste, illustrateur, passionné de musique. Cela fait 20 ans qu'il travaille sur des ouvrages quasi obsessionnels mêlant les passions de son adolescence, à savoir la musique et le dessin. Nouvelle preuve, son Brit Book, un ouvrage foisonnant de couleurs et de musique britannique, mais pas seulement.
Bah comme d'habitude, sauf qu'effectivement, là pour une fois, je ne parle pas que de musique, j'ai un peu ouvert le spectre à tout le reste en fait de des cultures populaires britanniques. Je commence toujours ces livres par beaucoup de documentation, tout simplement, et puis dès que je note un truc qui m'intéresse, je le mets dans un petit compartiment, architecture, mode, politique, monarchie. Voilà, comme ça, on se retrouve avec des milliards d'informations, puis après, bah, il faut les hiérarchiser, enfin faire un travail semi-journalistique, on va dire, de hiérarchie, voilà, on recoupe les infos, on vérifie, on chasse le gras, puis après, il faut écrire les petits textes qui sont souvent très synthétiques dans un second temps, mais ça commence par un amas de documentation, quoi. Donc, faut savoir que c'est chronologique, on part de 1962 jusqu'à aujourd'hui, il y a 4 pages par année. Ça commence par 2 pages de musique et 2 pages du reste. Moi, je vois ça comme une sorte de magazine dont je serai le directeur de publication, mais aussi le pigiste, le grouillot qui va faire les photocopies. Enfin, je fais tout, je fais aussi les dessins. Et donc, je fais des rubriques. C'est comme ça que je structure les pages. Il y a des rendez-vous, on va dire. On retrouve effectivement, comme vous disiez, la monarchie, un éphéméride, des concours canins. Donc, ça se structure comme ça, en fait. L'Eurovision aussi, qui revient assez régulièrement. Donc, c'est comme ça que je structure les choses, en rubriquant. Et en essayant de faire mélanger aussi la petite et la grande histoire, la petite anecdote et le truc primordial, mais qui souvent ont la même importance en fait au final, au bout de quelques années.
Hervé Bruys, à propos de son Brit Book, 60 ans de pop culture britannique, qui paraît chez Dargo. Il était interrogé par Catherine Fadbert. C'est un entretien que vous pourrez retrouver dès demain en intégralité dans Quartz, la newsletter et le podcast Livre de la RTS. Maintenant, si je vous dis lumière, soleil, ciel, orage, un nom de peintre anglais vient forcément à l'esprit. Lequel ? Réponse tout de suite.
Vertigo. Art visuel.
Vous l'avez reconnu, Fabian Ferrari, ce peintre, lumière, soleil, orage.
J'adore.
Ah.
J'ai toujours aimé Turner.
Eh bien voilà, il est
ça
à la...
Ça fait vraiment voyager.
Ouais,
il est à la... Il y a une poésie, une lumière, une luminosité.
Exceptionnel.
Exceptionnel.
Voilà, il est à la Fondation Giannada Martini et donc vous avez eu la chance de voir en avant-première cette expo. Florence Grivel. Dès demain,
je parle anglais maintenant.
Dès demain, le peuple que nous sommes pourra aller voir à son tour cette exposition.
C'est le vernissage demain, hein, donc oui, on verra. 2000 peuples.
Voilà. Donc 24 ans après Turner et les Alpes, voici The Sun is God, programme des huiles, des gouaches et des aquarelles.
Et c'est envoûtant. Des grandes huiles aux thèmes mythologiques, aux merveilleuses aquarelles délicates, puissantes, quasi abstraites, ça nous emporte dans la fascination du grand peintre anglais pour la lumière, lumière qu'il va expérimenter pleinement lors de son voyage à Venise en 1819. Et à partir de là, ses explorations picturalo-météorologiques vont démarrer et devenir vraiment sa marque de fabrique, avec cette nature déchirée par les orages, le vent, des vues de mer avec bateaux couchés par la houle. Quelques infos quand même sur Turner, qui est né en avril 1775. C'est un prodige, et ça je ne savais pas, qui déjà à l'âge de 12 ans expose ses œuvres dans la boutique de perruquier de son père. Un père dévoué au talent de son fils, quand son épouse, donc la mère de Turner, meurt en 1804, eh bien c'est le père qui s'occupe de tout, notamment de l'intendance de la maison pour que son fils continue de peindre. Le succès est aussi là très très vite, Turner reçoit beaucoup de commandes, et dans cette exposition articulée en 7 chapitres, l'aquarelle et les huiles sont majoritaires, chaque technique sert les objectifs du peintre. Précisément, on écoute Antoinette De Wolf, collaboratrice de l'exposition, à propos des aquarelles déjà.
Alors l'aquarelle lui permet bien sûr l'instantanéité, mais il fait des aquarelles d'une façon complètement particulière. D'abord les papiers, pour lui c'est extrêmement important, des papiers colorés, ce que comprenaient pas tellement les aquarellistes de l'époque, où il les colore lui-même, il les étend sur un fil pour les faire sécher. Ensuite l'aquarelle, vous savez, ça ne permet pas le repentir, c'est terriblement spontané, et dans l'aquarelle il va employer du buvard, il va employer une éponge, il va employer le bout de son pinceau pour gratter, ou un canif. Il fait des expériences absolument incroyables, ce qui donne à ses aquarelles quelque chose d'extrêmement personnel. On reconnaît bien sûr les aquarelles de Turner.
Il y a les aquarelles, alors quid de la peinture à huile ?
Avec l'huile, il va beaucoup chercher ce contraste ombre et lumière, influencé par Rembrandt, qu'il va découvrir à la fin du XVIIIe, vers les années 1790. Rembrandt, qu'il a aussi beaucoup apprécié. Et c'est tout ce côté atmosphérique, élément déchaîné, nature, qu'il va nous rendre dans ses techniques de peinture à l'huile et d'aquarelle d'une façon prodigieuse. Il oublie les contours, il ne va pas au sujet, il s'en détache totalement. En fait, il est un précurseur des impressionnistes, avec ses côtés totalement flous, avec ses dégradés très subtils de couleurs.
Et on se demande justement, face à cette œuvre qu'on pourrait dire avant-gardiste, quasi abstraite, quelle a été la réception de ces peintures.
Que c'était des brouillons, que c'était pas fini, on ne comprenait pas cet art à l'époque. Et c'est comme quand il a commencé à dessiner les cheminées, la vapeur, les trains. Et ben vous aviez les gens comme Delacroix, également Dickens ou Ruskin même, qui disaient mais c'est pas possible, c'est déshumanisé, c'est pas artistique, c'est pas des sujets qui sont de l'histoire de l'art. On ne comprenait pas comment il pouvait dessiner une locomotive. Et lui, il adorait rendre ses vitesse, il était moderne, il voyait le temps qui avance, et cette perception de la modernité, il l'a extrêmement bien rendu.
Antoinette De Wolf, votre micro, Florence Grivel. Et que dire du titre de cette expo, The Sun is God, le soleil est Dieu?
Ben, je laisse une fois de plus notre guide nous éclairer.
Son médecin raconte qu'à 9h du matin, le jour de sa mort, le 19 décembre, donc 1851, c'était morne et triste, et tout d'un coup le soleil est arrivé, a éclairé Turner, et c'est là, paraît-il, qu'il aurait dit cette phrase « The sun is God ». Il y avait certains de ses contemporains qui pensent que le soleil, c'est peut-être un autoportrait.
Un adorateur de Dieu, du soleil, de rare, ce Turner, voilà.
Égyptien.
Voilà, Antoinette De Wolf, donc collaboratrice pour l'exposition Turner intitulée The Sun is God, à découvrir dès demain à la Fondation Giannada à Martigny, et c'est jusqu'au 25 juin. Merci, Florence.
Avec plaisir, allez-y, courez-y.
Oui, on va y aller. Vous savez quoi, on retourne au théâtre en attendant. On va aller à Genève cette fois, et pour voir une pièce strictement féminine, tenez.
Tu es toujours aussi belle, comment tu fais? Je t'envie tellement.
Les choses ont bien changé depuis notre première rencontre.
Merci de m'avoir invitée.
Je t'ai vue l'autre jour, à la télévision. Tu chantais pour le président. Happy birthday to you.
Ah ben oui, je me souviens, c'était en 1962. Et cet appartement de Los Angeles, c'est le lieu d'une rencontre mythique entre deux stars superlatives, donc Hedy Lamarr et Marilyn Monroe. Et vous étiez là, Thierry Sartorici.
Oui, il y a un vrai miracle. Hein. Vous vous rendez compte, elle parle un français parfait et je n'étais pourtant même pas encore né. Mais blague à part, vous avez raison, Anne-Laure, d'évoquer un mythe. Cette rencontre, juste avant le suicide de Marilyn, on est au printemps 62, n'a sans doute pas eu lieu, elle relève du fantasme et surtout de l'hommage.
Et donc le catalan Carles Batlle signe le texte. Anne Bizan, qui aime les héroïnes, est à la mise en scène de ce spectacle, à voir au Théâtre de Poche à Genève jusqu'au 12 mars.
Oui, son titre Still Life Monroe Lamarr, Valeria Bertolotto porte la perruque brune de Lamarr, Jeanne Demont les mèches blondes de Monroe. On sait que les deux stars se sont pourtant rencontrées pour de vrai une première fois. Lamarr était alors au fait de sa gloire, Monroe une débutante. Dans cet Hollywood de la pré-pré-histoire Me Too, l'acteur Errol Flynn avait organisé une petite sauterie à Mulholland Drive dans sa villa. La débutante devait courir à travers le jardin en costume de lapin. Les invités, masculins, bourrés, lui couraient après et le lauréat couchait avec le petit lapin qui recevait en guise de prix de consolation un manteau de fourrure et qui sait peut-être un petit rôle. Cette histoire assez dégueulasse, ma foi, est hélas authentique.
Et donc Still Life, cette pièce nous raconte des actrices prisonnières de leurs clichés et qui valent bien plus que leur façade glamour.
Ben oui, rendez-vous compte, en pleine Seconde Guerre mondiale, Hedy Lamarr invente un système de transmission radio crypté pour guider des torpilles. Waouh, Hollywood, la Deuxième Guerre mondiale. Son invention est au fond l'ancêtre du GPS et du Wi-Fi. Elle avait le caractère bien trempé d'une comédienne juive austro-hongroise qui avait fui et le nazisme et un mari abuseur. Quant à Marilyn, fan de peinture, compagne de l'écrivain Arthur Miller, certainement fan de Turner aussi d'ailleurs, elle a trop souvent été réduite à son cliché de ravissante idiote. J'ai encore personnellement en mémoire le doublage calamiteux de ses films à la télévision. Bonjour, comment ça va, etc. Bref, ces deux femmes se rencontrent, partagent leurs forces, leurs fragilités, et nous, public, au sortir de cette heure d'échange, eh bien, on a juste envie de revoir leur film, d'une part, ou alors se plonger dans une biographie bien touffue, Marilyn Monroe et Hedy Lamarr, bien vivante grâce au théâtre.
Et c'est Still Life, donc Monroe Lamarr, qui se joue au Théâtre de Poche jusqu'au 12 mars et qui sera ensuite en tournée romande à la prochaine rentrée d'automne. Jean Chollet, est-ce que vous avez le temps d'aller voir les autres pièces que celles que vous-même mettez en scène, ou écrivez d'ailleurs, parce que vous êtes également dramaturge?
Oui, parce que heureusement pour moi, je passe pas mon temps à répéter tous les soirs et à écrire. Donc il y a des petits mois un petit peu plus légers où je vais voir des spectacles. Je suis par exemple très attaché à être chaque année au Festival d'Avignon. D'abord parce que j'ai une salle et que j'y présente des spectacles, bien sûr, mais parce que ça me laisse la possibilité de voir beaucoup de spectacles. C'est peut-être le moment où je profite de me ressourcer vraiment.
Autre hommage récent à Hedy Lamarr que vous évoquiez, Thierry Sartoriti, avec cette pièce. Il est musical, celui-là. Il est signé Johnny Depp et le regretté Jeff Beck. C'était sur leur album 18-18, sorti l'an dernier. This is a song for Miss Hedy Lamarr, erased by the same world that made her a star. Spun out of beauty, trapped by its web, she's a perfect cocoon, entwined in gold thread. Her beauty is spectacle, her thoughts too pure, the light of her being, her exotic allure. Was torn at the seams for daring to dream. It's so hard to speak when you're frozen in. Scream. Yes, it's all what it seems. Feels like a dream, but it's life and it's death. She began and she ended like baby's breath. I don't believe humans anymore. Shameful, shameless, painful, painless.
This song's for you, Miss Hedy Lamarr. How bright your light, those lost white nights so long ago, so far away, feels like a dream or a cosmic fiasco.
Impossible d'interrompre les guitares de Jeff Beck et Johnny Depp. This is a song for Miss Hedy Lamarr.
Vertigo, 17-18h, sur la première.
Ça, c'est mes poulains, ça.
Mais arrête de dire ça tous les jours, tu dis ça tous les jours.
Ça, c'est mes poulains. Regardez comme il m'aime.
Du rap, une foule en délire, les coulisses d'un tournage. Mais de quoi s'agit-il? Vous allez nous parler de tout ça, Sarah Clément?
Presque, Anne-Laure. En tout cas, je vais vous parler de New Wave, une mini-série de 6 épisodes produits par Fauve, une société de production lausannoise. Leur objectif, faire du cinéma qui a du sens tout en rassemblant les gens. Fauve a présenté son épisode pilote la semaine dernière devant la salle comble du Millennium à Crissier et il ne compte pas en rester là.
Mais alors, de quoi ça parle?
Eh bien, d'un jeune homme, Ismaé, qui se sent partir à la dérive suite au suicide de son grand frère. Un soir, il a un rêve, une vision. Son pouvoir, c'est la musique. Il va pouvoir exprimer sa détresse et son impuissance par le rap. En gros, New Wave, c'est un film sur une jeunesse désœuvrée en quête de sens.
Et qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Sarah, dans cet épisode pilote?
Eh bien, la première chose, c'est son esthétisme. L'intrigue se déroule à Lausanne. On y voit les petites maisons d'ouvriers de Bellevaux ou encore l'école du Belvédère. Pour ceux qui sont allés. L'équipe de tournage a aussi utilisé un drone FPV qui donne en fait des vues aériennes époustouflantes et très nerveuses à la fois, on se dirait presque à Los Angeles.
Los Angeles.
Alors pourquoi Lausanne? Eh bien, j'ai posé la question au réalisateur Florias Welsch-Gallet.
Je suis lausannois, fauvé lausannois, et moi je suis personnellement amoureux de cette ville. Cette ville m'a beaucoup donné et l'idée c'est de la mettre en valeur pour aussi... pour la rendre belle, mais aussi pour que les gens puissent être fiers de ce qu'on a ici et de pas toujours vouloir aller plus loin, chercher plus loin. Et dans notre milieu, dans le milieu artistique, c'est vrai, souvent on ressent ce besoin de toujours aller à Paris, d'aller dans les grandes villes pour faire des grandes choses. Mais en fait, on peut faire des grandes choses ici, on peut faire des trucs complètement qui sortent du lot dans nos quartiers et sous la cathédrale.
Des vêtements colorés, des personnages stylisés, Ismaé porte des bijoux, il a les cheveux roses flashy. Ça donne un univers très pop. Alors une autre caractéristique de cette série, eh bien, c'est l'utilisation d'images d'animation.
Dès le début de la conception New Wave, on s'est dit que le personnage principal, on devait rentrer dans son imaginaire, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il pense. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'animation pour être dans un monde qui n'est pas réaliste, pour avoir un peu cet effet imaginaire, etc. Où la gravité n'existe plus, où les choses peuvent bouger, peuvent être différentes de ce qu'on vit. Et c'est pour ça qu'on a essayé de chercher des animateurs et on a trouvé une équipe à Fribourg qui s'appelle Trois Traits, qui nous a fait toute l'animation du film. Et c'était tellement important pour nous d'avoir l'animation dans ce film, de rentrer dans la tête du personnage. Et on se réjouit pour la suite parce que ça nous laisse un terrain de jeu incroyable pour exprimer l'angoisse, pour exprimer les rêves aussi. Et puis pour sortir de l'ordinaire et puis de rendre un peu le projet encore un peu plus waouh.
Donc un projet waouh qui tourne aussi beaucoup autour de la musique. Je vous propose d'écouter un petit medley des chansons originales composées pour l'occasion.
Moi j'ai des flashs en tête. Ou dedans je suis rappeur. Moi j'ai des flashs en tête. Mais pourtant j'ai pas l'impression d'être le vainqueur. L'impression d'être délaissé. Le seul qui m'écoute il est dans le ciel. C'est pas d'ici que t'aurais dû sauter. T'aurais dû sauter de la scène.
You see the pain in my eyes. But I understand not to rise. Or to learn all the lessons. To answer the questions. To find who I really want to be.
Dans les rues de ma ville. Dans les rues de ma ville.
Donc voilà, tous ces chanteurs et chanteuses qu'on entend, bien, ça a posé un défi, en tout cas au niveau du casting.
Certes, on a besoin d'acteurs, de comédiens, mais on a besoin de comédiens qui rappent, qui font de la musique. Et on a dû choisir, en fait, au lieu de prendre des comédiens et de les faire rapper, bah, de prendre des rappeurs qui vont faire de la comédie. Donc on a cherché des talents, on a cherché des pépites dans le milieu de la musique et on a testé leur jeu. Et dans ces pépites, il y a eu vraiment des coups de cœur. Ou par exemple, William qui joue Ismaé, qui est venu et qui a commencé à jouer du piano dans notre bureau et rapper en même temps, ça a été un coup de foudre. Et puis on a vu son jeu et il y a eu du potentiel. Et il y en a plein comme ça et on s'est rendu compte qu'on avait une team, qu'on avait les bonnes personnes pour ça. Mais il y avait un aspect qui était vraiment important pour nous aussi, c'était de chercher des bons cœurs. Parce qu'on peut trouver pas mal de gens qui font de la musique, pas mal de gens qui sont excellents, mais te trouver des cœurs humbles, des cœurs qui sont prêts à servir aussi la jeunesse, c'était ça aussi un des défis.
Donc on vous sent, en tout cas vous aussi Sarah, emballée par cette série musicale, pas de bémol.
Si, il y en a un ou deux quand même, on va le dire. Donc on peut regretter le manque de personnages féminins et quelques clichés liés au monde du rap, mais l'équipe de tournage a déjà prévu de mettre en évidence des femmes fortes, mais aussi touchantes dans les prochains épisodes, tout en affirmant qu'il ne faut pas se fier aux premières impressions. Kaiser, le méchant musclé tatoué, pourrait nous réserver quelques surprises.
Ah, voilà le sens de nous accrocher comme ça déjà. Cliffhanger, merci Sarah. New Wave sera projeté donc ce samedi 4 mars au Flon à Lausanne dans le cadre des rencontres du 7e art. Il faut se dépêcher parce qu'il ne reste plus que quelques places. Donc vous y serez, Jean Chollet. Je vous sens très emballé par New Wave. René Morax, père du théâtre populaire roman, dont on fête les 150 ans donc cette année. Bah, pour toucher tout le public, n'est-ce pas le genre de choses qu'il pourrait faire aujourd'hui, une série?
Ah oui, complètement. Je veux dire, le principe de Morax, quand il crée ses grands spectacles au Théâtre du Jura ou la Fête des Vignerons, c'est de mettre ensemble des musiciens, des comédiens, des danseurs, de faire un spectacle total. Et il a rêvé de ça beaucoup au Jura, avec le style qui était le sien à l'époque et la musique qu'on affectionnait à l'époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, il sera tout à fait capable de s'intéresser à des univers qui vont bien au-delà de la chanson d'Aliénor.
À suivre donc, peut-être qu'on vous verra dans une prochaine série lausannoise ou pas, Fabien Ferrari, réalisée par, écrite par Jean Chollet. À suivre, on en parlera en tout cas. Comme chaque jour à pareille heure, c'est le coup de cœur de notre programmateur musical du jour. Il s'agit de Bastien Arnold qui aujourd'hui nous propose un duo français composé de Voyou et November Ultra qui interprète Soleil, Soleil.
Chavire mon cœur, engourdi du simple plaisir
d'être à ne rien faire, à scruter des heures, assis à ma fenêtre. Un rayon passe et tout vient à briller. Les tout petits riens prennent vie au fond de mes yeux. Soleil, soleil, quand tu t'invites aux merveilles à ma fenêtre. Soleil, soleil, soudain la poussière se transforme en paillette.
Qué bonito, bonito estar al no hacer nada, abrir la ventana, quedarse en la cama y dejar al sol regarme como una flor.
La belle voix de November Ultra ici avec Voyou qui interprète Soleil, Soleil. Eh bien, on part sur les routes où il y a un peu moins de soleil.
Infotrafic RTS
avec Carrosserie Suisse, ses apprentissages en carrosserie et en construction de véhicules, métier de la carrosserie.ch.
Dans le Jura bernois, des bouchons sont signalés dans les deux sens entre Corgemont et Courtelary suite à un accident. Trafic pendulaire, alors grosse perturbation sur la 1 Lausanne-Genève entre Écublanc et Saint-Pré en direction de Genève. Sur la 9 Lausanne-Vevey entre La Blécherette et Chèbre en direction de Vevey. Et sur le contournement de Genève, de l'aéroport à la douane de Bardonnay.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Vertigo, Anne-Laure Ganac.
Avec Fred Facio à la réalisation et en studio, Jean Cholet, metteur en scène, et Fabien Ferrari, comédien. Tous les deux pour nous parler de la pièce 4 doigts et 1 pouce à voir bien à Chezeau, à Carouge, entre autres. Merci à vous.
Merci. La première vous offre l'heure.
Il est 18h sur la première, c'est le moment de retrouver Forum avant de vous retrouver demain en direct du studio 15 de la RTS à Lausanne.